avec de l'humour. Regardez ceci, par exemple. Oh, il est parti. Pavillon suivant. Voilà. J'aime beaucoup celui-là. Venez comme vous êtes. Par contre, pour aller à l'église, ou des fois pour s'approcher de Dieu, on se fait des films. Suivant. Voilà. On a l'impression, ou on nous a donné l'impression, que c'est comme une boîte de nuit très stricte. Pas le genre d'établissement où tu rentres en jean et en basket, non. Il faut remplir plusieurs conditions. Il faut déjà être d'accord sur les croyances. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu crois en autre Dieu que celui des chrétiens, ou même si tu ne sais pas trop en quoi il faut croire, tu n'auras pas ta place à l'église. Ensuite, il faut vivre selon la morale chrétienne. Si tu vis en concubinage ou en relation homosexuelle, si tu bois trop, si tu fumes du shit ou tu regardes du porno, si tu consultes des voyants ou tu votes pour un parti extrême, non plus, tu n'auras pas ta place. Enfin, il faut connaître les pratiques religieuses. Savoir quand il faut se lever, quand il faut s'asseoir, connaître le vocabulaire. C'est quoi la différence déjà entre l'Eucharistie, la Sainte Cène et la Communion ? Savoir comment s'habiller, le jean et les baskets, ça passe ou ça passe pas ? Et c'est très dommage. Je ne sais pas comment on est arrivé là, parce que longtemps avant McDo, Jésus a invité les gens à venir vers lui comme ils étaient. Donc on va lire, tu peux cliquer encore une fois, Marc chapitre 2, quelques versets à partir du verset 13. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et l'enseignait. Il l'enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, les spécialistes de la loi, les pharisiens, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs. » Est-ce que Jésus ne traînait qu'avec des pratiquants réguliers, avec des gens respectables, orthodoxes ? Il y en avait certains autour de lui, les pharisiens, les spécialistes de la loi, mais ils sont surtout là en embuscade pour le critiquer. Ce qu'on voit ici, c'est Jésus entouré d'une grande foule, verset 13, il y avait sans doute un peu de tout. Puis on le voit appeler un collecteur d'impôts, Lévi, verset 14. Et enfin, au verset 15, on le voit en train de festoyer chez Lévi, avec tous ses copains plus malfamés les uns que les autres. D'autres collecteurs d'impôts, et puis une autre catégorie de personnes appelée les pêcheurs. Alors, si on cherchait un équivalent contemporain, pour nous aider à comprendre qui étaient les collecteurs d'impôts, certains d'entre vous sont... connaissent bien ce contexte historique, on pourrait employer le mot « collabo », comme dans la dernière guerre en France. Des gens qu'on méprisait parce qu'ils trahissaient leur propre peuple pour gagner de l'argent en travaillant pour l'ennemi. Donc en l'occurrence, des Juifs qui travaillaient pour l'Empire romain. Des traîtres, corrompus, profiteurs. Et puis, il y a les pêcheurs. Alors, si on connaît un petit peu la doctrine chrétienne, on pourrait penser que ça veut dire tout le monde. Parce que les chrétiens savent que nous avons tous tourné le dos à Dieu et nous avons tous tendance à nous mettre nous-mêmes au centre du monde plutôt que lui. C'est juste. Mais ici, le mot est utilisé plutôt comme les pharisiens et d'autres de leur espèce l'employaient à l'époque. C'est-à-dire pour désigner les gens de mauvaise vie, des gens qui savaient sans doute ce qu'il fallait faire pour être bon juif, mais qui n'essayaient même plus. Qui ne faisaient même plus semblant. Des bagarreurs, des paresseux, des ivrognes, des prostituées. Et Jésus les appelle. On peut avoir un premier titre, peut-être. Voilà. Jésus appelle les pécheurs, c'est le premier point. Il le dit en toutes lettres, à la fin du verset 17. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et il donne exemple avec Lévi au verset 14. Et il enfonce le clou en se mettant à table avec eux pour partager un bon repas avec eux. Et on voit bien comment il a acquis son surnom, l'ami des pécheurs. Ok, mais aujourd'hui, quel serait l'équivalent des pécheurs? Notre société pluraliste est beaucoup plus confuse sur les questions de moralité que la société monoculturelle où Jésus vivait. Tout le monde avait en principe les mêmes valeurs à l'époque. Mais quand même, il y a aujourd'hui des gros méchants, des gens qui sont infréquentables, moralement insupportables pour à peu près tout le monde. C'est qui selon vous? Vraie question pour voir si vous êtes réveillé. Les homosexuels, alors pour une certaine catégorie de la population. Parce que pour la grande catégorie, enfin, la grande société, ce n'est plus inacceptable. Oui? Pardon? Les violeurs, oui. Balance ton porc, voilà. Donc les harceleurs, les violeurs, oui. Meurtriers, oui. Les racistes, oui. Valeur quasi consensuelle dans la société, les racistes. Les islamistes, donc les terroristes, a fortiori. Ouais. Pardon ? Les menteurs, oui, ça dépend du niveau, parce qu'on tolère beaucoup à ce niveau-là, mais oui, les gros menteurs, on va dire, oui. Les criminels, voilà, je pense qu'on a une idée, peut-être. Donc, le message de ce chapitre, c'est que ces gens-là ne sont pas infréquentables pour Jésus. Au contraire, c'est pour des gens comme ça qu'il est venu. Il est venu appeler les pécheurs, les grands pécheurs et les petits pécheurs, les mauvais juifs, les marginaux, les outsiders. Les gens n'avaient pas besoin de mettre leur vie en ordre avant de trouver un accueil chaleureux chez Jésus. Venez comme vous êtes. Et clairement, ça dérangeait les pharisiens. Qu'est-ce qu'il fait en compagnie de ces malfrats? Mais Jésus persiste et signe, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais les pécheurs. Il n'y a pas de prérequis moral pour entrer chez Jésus. » Et donc, il ne devrait pas y en avoir pour être accueilli dans la communauté de l'Église non plus. Les portes ne sont fermées à personne, ni aux pécheurs, ni aux plus méprisés, ni à ceux qui ne partagent pas pour le moment nos croyances ou nos valeurs, ni à ceux qui ne connaissent pas notre vocabulaire ou nos codes religieux. Au contraire, venez comme vous êtes, venez comme vous êtes. Il les appelle. Mais il les appelle pas de l'autre côté de la rue, comme je viens de le faire comme ça, comme on appelle un taxi. Ils ne hurlent pas à distance. Ils passent du temps avec eux. Il y a peut-être une image, voilà. Ils passent du temps avec eux. Il va les chercher. Il va les rencontrer. Il partage des repas avec eux. Il va sur leur territoire. Il n'a pas honte d'être vu en leur compagnie. Imaginez, parmi les gens qu'on a listés là, Est-ce qu'on aurait honte d'être vu en leur compagnie? Même si ça fait jaser les gens respectables. Ici, on le voit chez Lévi, avec les copains de Lévi. Ailleurs, on le voit chez Zachée. C'est le même genre de situation. Jésus aime les pécheurs et il aime les pécheurs. Jésus appelle les pécheurs, pardon, et il aime les pécheurs. Ça veut dire qu'il y a un problème si nous qui suivons dans les traces de Jésus, nous restons dans notre petit cercle de chrétiens qui croient comme nous, qui pensent comme nous et qui agissent comme nous. Parce que c'est à nous, ses disciples, que Jésus a confié la mission d'apporter son message aux autres pécheurs qui ont besoin de l'entendre. Est-ce que c'est un vrai problème ou juste un problème théorique? Alors, je ne connais pas vos situations à Chartres, mais de manière générale en France, il semblerait que oui, c'est un grand problème dans nos milieux évangéliques. En 2013, le CNEF a fait une enquête auprès de plus de 300 pasteurs en France sur le thème général de l'évangélisation. L'une des questions concernait le type de formation qui serait le plus important de mettre en place dans leur église pour améliorer son impact en termes d'évangélisation. Et le résultat, la réponse qui a été plébiscitée par-dessus toutes les autres, c'était une formation pour aider les gens à construire les relations avec les non-chrétiens, ceux qui ne partagent pas nos croyances. C'est-à-dire, aux yeux de ces pasteurs, le problème n'était pas simplement que les gens de leurs églises ne savaient pas quoi dire ou faire pour témoigner de Jésus, c'est qu'ils n'avaient pas même l'occasion de partager avec des non-chrétiens parce qu'ils n'en connaissaient pas. Ou pas un niveau qui permette de partager sur les choses qui comptent dans la vie. Aujourd'hui, les gens ne vont pas nous écouter si on leur hurle de loin. La publicité, les campagnes de vente par téléphone nous ont rendu méfiants de la parole des inconnus. Nous faisons confiance à ceux que nous connaissons et à ceux qui nous sont chers. Donc nous avons besoin de suivre l'exemple de Jésus et de Lévi, de passer du temps autour de la table avec nos amis non-croyants. Alors si comme Lévi, on vient tout juste rencontrer Jésus, c'est d'autant plus facile et naturel. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui dirait qu'il est devenu disciple de Jésus dans les deux dernières années? Ok. Je pense que c'est un temps précieux, c'est un temps où on commence à marcher avec le Seigneur. Il faut cultiver précieusement ces amitiés qu'on a avec notre entourage, comme Lévi. C'est une excellente occasion. Il ne faut surtout pas couper les ponts avec ces gens-là parce qu'ils ne partagent plus les mêmes valeurs avec eux. Avec une nuance peut-être pour certains cas extrêmes où on est entraîné dans la drogue ou il faut être réaliste un peu par rapport à ses propres capacités de résister à la tentation. Mais avec cette exception-là, le Seigneur est sûrement en train de te changer radicalement si tu viens de te tourner vers lui. Et les gens vont pouvoir le voir, vont pouvoir être témoins de cette transformation. Et c'est déjà, tu as un grand réseau c'est un moment charnière dans ta vie qui est particulièrement puissant. Alors les autres, nous les autres qui marchons depuis plus longtemps avec le Seigneur et qui sont depuis plus longtemps dans un milieu d'église, nous devons être plus intentionnels parce que c'est trop facile de rester tranquillement entre chrétiens. Et d'une part, parce que le programme de l'église, en plus du travail et de la vie familiale, souvent ne nous laisse pas beaucoup de temps libre. Mais même si nous avons le temps, nous n'avons pas forcément envie de cultiver des relations avec des non-chrétiens, soyons honnêtes. Pour nos besoins affectifs, nos relations dans l'Église nous suffisent. On n'a pas le sentiment d'être seul, pourquoi chercher plus loin ? D'habitude, c'est parce que les gens sont en manque de relations qu'ils vont chercher d'autres. Donc si on a déjà un réseau tout fait dans l'Église, pourquoi aller chercher d'autres ? Et si on a une soirée de libre, c'est tellement plus simple de le passer avec d'autres chrétiens. Ils ne vont pas nous raconter des blagues grivoises, ils ne vont pas nous entraîner dans leurs sorties suralcoolisées, ils ont les mêmes valeurs que nous, quoi. Il faudra donc être très intentionnel, il faudra décider, nous allons partager nos vies avec ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Il faudra le décider chacun pour soi et il faudra le décider ensemble. Jusque-là, je pense que ce message a été relativement facile à entendre, pas spécialement choquant. Il y a peut-être certains rigoristes qui veulent... Enfin, certains puristes qui ont du mal avec ça, mais pour la plupart d'entre nous, je pense qu'on a au moins en théorie acquis cette idée que Jésus accueille les pécheurs, les bras ouverts, passe du temps avec eux. Jésus explique, verset 17, première partie du verset 17, pourquoi il fréquente les gens de mauvaise vie. Et il dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et cette métaphore du médecin des malades, c'était une métaphore connue à l'époque. Il n'y a pas que Jésus qui l'avait utilisée, les philosophes itinérants grecs, les rabbins même l'utilisaient aussi. Mais la deuxième partie du verset 17 va beaucoup plus loin. Et là, c'est là où ça devient choquant. Donc, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est mon deuxième point, si tu appuies Bruno. Jésus n'appelle que les pécheurs. Vous vous rendez compte? Il n'est pas venu pour les bons et les méchants. Il n'est pas venu pour les justes et les injustes. Il est venu que pour les méchants, que pour les injustes. C'est très fort. Je ne suis pas venu appeler des justes. Je ne m'occupe pas d'eux. Qui se débrouille? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu penses que tu es fondamentalement quelqu'un de bien, quelqu'un qui pourrait bien sûr faire des progrès moralement, qui pourrait devenir plus courageux devant le patron, plus patient avec la belle-mère, moins cassant avec les potes. Quelqu'un, disons, d'imparfait, mais de fondamentalement juste. Alors Jésus n'est pas venu pour toi. Il ne sera pas ton sauveur. Il ne sera pas ton sauveur parce que tu ne vas pas lui demander. Ou tu ne vas pas lui demander vraiment. Tu répéteras peut-être une formule religieuse, surtout si tu viens d'un milieu chrétien où ça se fait, mais... ça ne voudra rien dire parce qu'en vrai, tu ne penses pas avoir besoin d'un sauveur. D'un conseiller peut-être, d'un coach, mais pas d'un sauveur. Au lieu de pleurer sur les péchés que tu as faits, ton manque d'amour pour Dieu, ton manque d'amour pour les autres autour de toi, tu t'auto-justifies en pensant aux péchés que tu n'as pas faits, aux péchés des autres. Sans nécessairement le dire à haute voix, tu considères qu'eux ont besoin d'un sauveur, mais pas toi. Du coup, tu n'en auras pas. Et tu devras affronter seul le jugement de Dieu, sans personne pour payer tes dettes. Et ça, c'est une perspective proprement terrible. Moi, pendant les années de ma première enfance, j'étais incapable de recevoir la grâce de Dieu. Pour cette raison, parce que je me considérais comme fondamentalement un gentil garçon. Un garçon qui avait ses caprices, ses accès de colère, mais qui était du côté des bons, qui était avec James Bond, Luke Skywalker et Sherlock Holmes contre les méchants. Il a fallu que l'Esprit de Dieu m'humilie, que je sois, en clair, puni par les autorités du collège dans le cadre d'une sordide affaire d'injures homophobes contre un prof, pour que je me rende compte que mon cœur était pourri et que j'avais besoin d'un sauveur pour acheter mon pardon à prix de sang. Et jusqu'à aujourd'hui, plus je pense à... plus je fais de l'introspection, plus je sonde mon cœur, plus je laisse l'Esprit Saint sonder mon cœur, plus j'ai conscience d'avoir besoin de l'aide extérieure. De l'aide, c'est un faible mot, d'un sauveur. Jésus n'est donc pas venu appeler les justes. Il est venu pour qui? Eh bien, pour ceux qui savent, qui sont fondamentalement dans la même catégorie que les pédophiles, ceux qui battent leurs femmes, les dictateurs corrompus, les drogués, les patrons voyous, les voyous tout court, les terroristes, les racistes. Leurs péchés sont différents, ils sont peut-être, allez, osons-le, ils sont peut-être relativement moins graves. Mais ils sont loin d'être négligeables, ils sont réels et ils méritent la condamnation de Dieu. Ces gens-là, en gros, savent qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'un sauveur. C'est eux que Jésus est venu appeler, c'est eux qui sauvent. Et eux seulement. En fais-tu partie? J'avais au collège un prof de biologie quand j'étais en cinquième, Monsieur Bailey. J'étais en collège en Angleterre. Il voulait être notre ami. Et ça s'est passé mal, forcément. J'ai pas de jugement de valeur par rapport à lui. Moi, j'étais prof et j'avais aussi ce défaut-là. Je voulais être trop aimé par les élèves et j'étais pas suffisamment carré dans la discipline. Et quand dans ces situations-là, c'est la catastrophe. Il voulait, il voulait être aimé et nous on n'avait pas envie d'apprendre la biologie, c'était pas notre priorité à l'époque et donc c'était la foire dans la classe. Je crains d'avoir donné cette impression de Jésus par ce que je viens de dire. Je crains d'avoir donné l'impression de quelqu'un qui a désespérément besoin de notre amitié, qui est très peu exigeant, qui est si peu exigeant que le seul critère d'admission parmi ses disciples, c'est de se savoir nul. Mais au contraire, ce qu'on voit ici, c'est que Jésus appelle les pécheurs. Si on peut cliquer pour avoir le troisième. Voilà, Jésus appelle les pécheurs. Jésus n'appelle que les pécheurs. Jésus appelle les pécheurs. Jésus, ici, on le voit actif. Proactif, royal même. Il renverse la tradition. La tradition à l'époque, c'était que les rabbins et les philosophes itinérants, ils attendaient que des disciples viennent à eux. Ils ne s'humiliaient pas pour aller les chercher. Ils parlaient et ils attendaient d'acquérir une bonne réputation, d'être un beau parleur, d'être quelqu'un de sage, et puis les gens viendraient naturellement vers eux. Mais Jésus ne s'humilie pas non plus dans cet aspect-là. Jésus n'est pas dans la séduction. Jésus n'essaie pas de se bâtir une réputation en disant de belles paroles. Il n'est pas non plus dans la compétition avec les autres pour avoir une plus grande foule autour de lui que le rabbin d'à côté. Parce qu'il n'est pas juste un rabbin. Il est aussi le Christ, il est le roi choisi par Dieu, donc c'est un roi qui commande. Il appelle, toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi. Il convoque, il somme à l'obéissance. Et les pécheurs entendent sa voix. Et ils entendent dans sa voix quelque chose qui ne leur donne pas le choix. Ils entendent une autorité qui font qu'ils laissent leur filet, qu'ils laissent leur bureau de péage, et ils le suivent. Il n'y a pas de prérequis moral pour entrer chez Jésus, mais Jésus n'est pas content de laisser « venez comme vous êtes », de ne pas nous laisser comme nous sommes, il n'est pas content de nous laisser à l'état où il nous trouve, il vient nous transformer. « Venez comme vous êtes et laissez-vous transformer », c'est le slogan d'une église de France Mission que j'ai plagié. « Venez comme vous êtes et laissez-vous transformer », c'est ça l'appel de Jésus le roi, Jésus le Christ, qui parcourait autrefois les campagnes d'Israël et qui aujourd'hui, par son esprit, par sa parole, continue de sommer des pécheurs à le suivre. Je vais prier.